Alors, je m'appelle Antoine Garapon, je suis magistrat de formation et j'anime depuis un certain nombre d'années l'Institut des hautes études sur la justice.
Alors, que pensez-vous du rapport sur les 4 défis de l'avocat français du 21e siècle que vient de publier le Centre de recherche et d'études des avocats et l'Institut des hautes études sur la justice?
Alors, la question que vous posez est très embarrassante parce que j'en suis l'auteur. Donc, vous me demandez soit de vanter les mérites de ma plume, soit au contraire de jouer au faux modeste. Non, ce qu'on a voulu faire, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu identifier des défis de la profession d'avocat et le faire avec un pas de côté, un peu de l'extérieur par rapport à ce que peut-être pourrait dire un avocat de l'intérieur. Donc c'est un regard semi-externe sur la profession.
Comment pensez-vous que ce rapport sera reçu par la profession d'avocat?
Alors j'en ai encore pour l'instant aucune idée et je suis curieux de voir ici ce que certains vont en dire. Le plus grand péril que court ce rapport, c'est de n'être pas lu, qui est le destin de beaucoup de rapports. Alors après, s'il est lu et s'il est bien lu, je pense qu'il y a des choses qui indisposeront les avocats, mais qu'il se rassure tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont également indisposer les juges. Il me semble qu'aujourd'hui, considérer les intérêts catégoriels des avocats indépendamment de ceux de tous les juristes de droit privé est un peu limité, voire une illusion. Les défis qui sont lancés aux juristes de droit privé sont des défis qui nous sont communs, à nous tous, magistrats de l'ordre judiciaire, avocats, directeurs juridiques, notaires, professeurs de droit privé. Donc c'est un défi qui est beaucoup plus large.
Un des premiers défis que vous lancez à la profession d'avocat, c'est gagner en crédibilité. Comment la profession d'avocat doit-elle gagner cette nouvelle crédibilité auprès du public, des clients et notamment du juge?
Alors, la crédibilité, c'est une question en soi parce que elle se substitue silencieusement à la légitimité du statut. Auparavant, on était avocat, on portait la robe, on avait vissé sa plaque, comme on disait, on avait les diplômes requis et on bénéficiait de ce fait d'une sorte de rente de considération de la part du public. Aujourd'hui, dans l'époque que nous traversons, les choses ne se passent plus ainsi et il faut que chacun dépasse en quelque sorte son statut en gagnant la crédibilité du public. Alors ça veut dire quelque chose, l'enjeu est commun et pourtant il prend une signification spécifique pour chaque profession. Les juges doivent se montrer crédibles dans leur prétention à arbitrer de plus en plus de relations sociales. Les avocats aussi doivent se montrer crédibles. Alors pour l'avocat, ça revêt un double enjeu. Un enjeu interne, un enjeu externe. Se montrer crédible à l'égard des juges, c'est-à-dire de leurs interlocuteurs naturels en disciplinant leurs écritures et leurs propos, et aussi en montrant leur utilité sociale au public. Ils ne peuvent pas se satisfaire de dire « nous sommes avocats » et en vertu d'une sorte de grâce d'État, nous devons être reconnus par le public. C'est plus comme ça que ça se passe.
Vous vous intéressez beaucoup à la révolution numérique. Quelle doit être justement la révolution numérique de l'avocat? Ce dernier doit-il devenir un avocat codeur?
Alors ça, c'est bien sûr la situation extrême. Ce qui est certain, il faudrait partir d'un théorème qui est aujourd'hui communément admis, qui est celui que les avocats ne peuvent pas lutter contre le numérique. Ils ne peuvent pas définir une stratégie contre le numérique en disant « cela ne nous atteindra pas ». Il me ferait penser dans ce cas-là au major du son et de l'image d'ailleurs qui, souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années, on dit « nous, on va protéger le droit d'auteur et on va se protéger des images Internet ». Eh bien, ils ont été balayés par la vague une nouvelle économie a été inventée par le streaming, etc. Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose pour les avocats. Il y a un certain nombre de combats qui sont déjà perdus. Mais c'est même pas une question de gagner ou de perdre, c'est que les nouveaux modes d'accès à l'information juridique sont irréversibles. Et les avocats auraient tort de s'y opposer. La véritable question qu'il leur est posée, c'est comment on intègre le numérique dans l'exercice de la profession d'avocat et en termes beaucoup plus particuliers dans le fonctionnement d'un cabinet. Est-ce que les avocats ne doivent pas proposer un service à très faible coût pour un prix très faible pour les clients, une sorte de low cost si vous voulez, mais de low cost un peu ce que fait Air France, de low cost qui est intégré à une compagnie, à une grande compagnie aérienne ou à un grand cabinet. Je pense que le numérique marque la fin d'un exercice solitaire d'une certaine catégorie d'avocats, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des avocats de proximité qui ne seront pas tellement bouleversés par le numérique.
L'avocat ne va-t-il pas perdre la maîtrise de son exercice professionnel par l'arrivée de toutes ces legal tech et plateformes numériques ?
Il ne perd pas l'exercice de son activité professionnelle, il en perd le monopole, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il doit démontrer par ses actes, par ses prix, par son dynamisme, qu'il a encore un avenir devant lui et qu'il a un plus, qu'il apporte une plus-value par rapport aux legal tech ou par rapport aux plateformes d'information juridique. Donc, pour cela, ça veut dire qu'il y aura des... Il doit revoir entièrement son modèle économique et j'espère que c'est ce que les avocats vont faire au plus vite.